Au sommaire de ce journal, le président iranien Ebrahim Raisi condamne la présence militaire des États-Unis en Syrie, qui est vouée à l'échec. Iran-Ouzbékistan, accélérer la mise en œuvre des accords, augmentera le niveau des relations bilatérales, réaffirme le président du gouvernement iranien. Et puis l'Iran travaille pour améliorer les relations économiques avec ses voisins. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien a condamné la présence militaire des États-Unis en Syrie, une intervention illégale vouée à l'échec, a-t-il prévenu. Ebrahim Raisi a fait ses déclarations à l'occasion d'une interview accordée à l'agence de presse officielle syrienne Sana. Il a déclaré que la Syrie avait su déjouer un plan américain visant à occuper des parties de la Syrie et piller ses richesses naturelles. Raisi a noté qu'aucune force militaire étrangère ne devrait être présente sur le sol syrien, ajoutant que la principale préoccupation des pays de la région était désormais la restauration de la souveraineté de la Syrie. Le président iranien est rentré vendredi à Téhéran après une visite officielle de 2 jours à Damas. Le président Raisi, s'attardant sur les affinités culturelles et civilisationnelles que partagent l'Iran et l'Ouzbékistan, qui favorisent à ses yeux un terrain approprié pour promouvoir la coopération économique bilatérale, a déclaré, bien que la croissance des relations politiques et économiques entre les deux pays au cours de l'année écoulée ait rendu la situation différente par rapport au passé, mais les potentiels existants nécessitent toujours plus d'efforts pour la promotion plus concrète des relations. S'exprimant lors d'une rencontre avec Nurdinjan Ismailov, président de la Chambre législative de l'Ouzbékistan hier samedi, le président Raisi a déclaré « 18 accords de coopération et mémorandums d'accord ont été signés entre la République islamique d'Iran et l'Ouzbékistan et l'accélération de leur mise en œuvre augmentera considérablement le niveau des relations bilatérales ». Pour le président de la République islamique d'Iran, l'échange d'expériences entre les parlements iraniens et ouzbeks sera une étape efficace et positive vers le développement des relations entre les deux pays. Pour sa part, le très haut parlementaire ouzbek a salué la politique étrangère du président Raisi, axée sur le développement des relations avec les voisins, et a déclaré « En Ouzbékistan aussi, conformément à cette politique de principe, lors de l'amendement de la Constitution, le développement des relations avec les voisins est prioritaire », déclarant que les parlements des deux pays doivent jouer un rôle efficace dans le développement de la coopération entre les gouvernements. Le président de la Chambre législative ouzbek a renchéri « J'assure que le Parlement de l'Ouzbékistan utilisera toutes ses facilités et capacités afin de mettre en œuvre les accords signés entre les deux pays ». Lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition Iran Expo 2023, tenue ce dimanche 7 mai à Téhéran, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son gouvernement était déterminé à améliorer le niveau de ses interactions commerciales et économiques avec ses voisins et alliés. Le président iranien a confirmé que la politique étrangère de son gouvernement était axée sur le renforcement des liens avec les voisins et alliés et le développement de la diplomatie économique. Raisi a ajouté que l'Iran est surtout connu dans l'industrie pétrolière et gazière et que l'accent mis sur ces deux secteurs a éclipsé les autres capacités du pays. À cet égard, la première étape consiste à présenter les capacités d'exportation de la République islamique et à connaître celles d'autres pays, a-t-il déclaré, et de poursuivre. Mon gouvernement envisage donc d'améliorer le niveau de ses interactions commerciales et économiques avec la plupart des pays avec lesquels il entretient des relations. Toujours lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition Iran Expo 2023, Ebrahim Raisi a évoqué les pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales et la fin des sanctions anti-iraniennes, soulignant que le gouvernement ne lie pas les progrès du pays et le règlement des problèmes à l'accord nucléaire. Ce sont les États-Unis qui ont quitté la table des négociations et ce sont les parties européennes qui n'ont pas rempli leurs engagements changement et ont renié leurs obligations en vertu de l'accord, a-t-il réitéré, rappelant aux parties européennes au plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, que l'Iran avait des exigences logiques et légitimes. Enfin, les exportations pétrolières iraniennes ont doublé sous le gouvernement du président Raisi. Le PDG de la Société nationale iranienne de pétrole a annoncé qu'avec des mesures efficaces, les exportations de pétrole ont doublé sous le gouvernement Raisi. Le PDG de la Société nationale iranienne de pétrole, Mohsen Khojastemer, lors de sa visite samedi sur l'île de Khalq, dans le Golfe Persique, a déclaré « Le crédit des plans et projets des terminaux pétroliers iraniens a augmenté, dont 80% des crédits sont basés sur les approbations de la Société nationale iranienne de pétrole sous le gouvernement Raisi. Les exportations de pétrole brut et de condensat de gaz ont doublé sous le gouvernement Raisi. » Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Le mythe de l'infiltration iranienne en Afrique du Nord démystifié. Au lendemain des accusations sans fondement portées par le Maroc contre l'Algérie, affirmant que le gouvernement algérien facilite l'infiltration iranienne au Maghreb, il est essentiel de comprendre comment le terme « république islamique » est utilisé dans certains contextes pour faire taire et criminaliser des choix politiques spécifiques. Venons-en directement au discours qui criminalise l'Iran et tous les acteurs politiques qui lui sont associés, que cette association soit réelle ou imaginaire. Ce discours repose sur des fondements épistémiques qui incluent la catégorie de république islamique aux côtés d'autres catégories telles que radicales, islamistes, extrémistes ou terroristes au sein d'une chaîne d'équivalence. Au sein de ce discours, le terme « république islamique » est déployé avec l'intention de criminaliser des mouvements, des idées ou des pays qui posent un défi au projet hégémonique occidental. On peut aussi dire que cet usage discursif sert à diviser la région, en l'occurrence l'Afrique du Nord, en amis et en ennemis, une division politique qui considère certaines pratiques, attitudes et discours comme acceptables et naturels, tandis que d'autres pratiques sont méprisées comme déviantes ou en dehors de la norme. D'un point de vue historique, certaines données sont pertinentes pour comprendre la relation politique actuelle entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que pour comprendre les articulations discursives qui continuent d'affecter cette relation. L'Algérie et le Maroc étaient des colonies françaises avant d'accélérer à l'indépendance au milieu du XXe siècle. Immédiatement après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, les deux pays ont eu un différend territorial. En 1963, la soi-disant « guerre des sables » a éclaté en raison d'un conflit territorial près du Sahara occidental, qui, à l'époque, était encore sous le contrôle colonial de l'Espagne. Bien que le Maroc ait cessé de revendiquer des territoires algériens en 1972, l'Algérie a décidé de soutenir l'indépendance du Sahara occidental pour freiner l'expansion marocaine. C'est précisément la question du Sahara occidental qui a dominé les relations entre les deux pays au cours des 20e et 21e siècles. L'Espagne a conservé le territoire jusqu'en 1976, date à laquelle la dictature de Francisco Franco a pris fin. À cette époque, l'Espagne a signé les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie. ce qui signifiait la division du territoire sahraoui entre les deux pays signataires. En raison de cet accord, les indigènes sahraouis se sont retrouvés sans état ni capacité à se gouverner eux-mêmes. Les accords de Madrid ont été largement rejetés par l'Algérie, qui les considérait comme une continuation du colonialisme et une menace pour leur influence en Afrique du Nord. Peu de temps après, l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc et a commencé à fournir des armes et un refuge à l'organisation sahraoui indépendantiste, le Front Polisario. En 1976, l'Algérie a reconnu la République arabe sahraoui démocratique. Déclarée la même année par le Front Polisario comme l'autorité légitime sur le Sahara occidental. La guerre qui a suivi entre le Front Polisario et le Maroc a duré jusqu'en 1991 et a été réactivée en 2020 après 30 ans de tensions latentes. L'année 2020 a également vu le Maroc normaliser ses relations avec l'entité sioniste. En échange de cette normalisation, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'entrée de l'entité sioniste en Afrique du Nord n'est pas une mince affaire. L'Algérie est actuellement l'un des pays les plus anti-sionistes du Maghreb. Les autorités algériennes estiment que les relations politiques et militaires entre le Maroc et l'entité sioniste mettent la stabilité régionale en danger. C'est dans ce contexte que l'on peut trouver l'approche de la République islamique comme une menace à la configuration régionale conçue par le Maroc, les États-Unis et les sionistes. Actuellement, les relations diplomatiques entre la République islamique et le Maroc sont en rupture après que Rabat a rompu toutes les relations diplomatiques avec Téhéran en raison de ce qu'il a appelé le soutien de Téhéran au Front Polisario. Déjà à ce stade initial, on y trouve un discours anti-iranien, bien formé et articulé. Rabat a non seulement critiqué le soutien présumé, mais non prouvé de l'Iran au Front Polisario, mais a également accusé le mouvement de résistance Hezbollah, décrit par les autorités marocaines comme un mandataire iranien, d'entraîner et d'armer des membres du groupe indépendantiste sahraoui par l'intermédiaire de l'État algérien. Le Hezbollah a nié une telle chose dans un communiqué et accusé le Maroc, pour sa part, d'être sous la pression sioniste et américaine. Mais le discours était déjà en circulation. Ce que ce discours cherche du côté marocain, c'est à délégitimer toute éventuelle critique algérienne de la politique marocaine et ou de la déstabilisation régionale prouvée par l'entité sioniste. Et pour y parvenir, le Maroc fait circuler le signifiant République islamique comme symbole politique de la menace ultime. Du fait de l'usage de ce discours, tout type de coopération, même imaginaire, avec l'Iran est contaminé. Dans ce cas, l'Algérie est considérée comme étant contaminée par des prétendus contacts avec l'Iran. Le discours de la menace iranienne n'est pas nouveau et n'a pas été articulé pour la première fois par les autorités marocaines. Il est apparu sous sa forme actuelle en 1979, l'année de la révolution islamique. Ce que fait le Maroc, c'est réarticuler et adopter ce discours aux conditions politiques locales. En faisant circuler ce discours anti-iranien, le pays entre de plein fouet dans le clivage entre mauvais musulmans et bons musulmans. Le bon musulman renonce à être une option politique alternative basée sur l'islam comme grammaire. Le bon musulman est celui qui suit des pratiques et des croyances considérées comme correctes, tandis que le mauvais musulman est celui qui viole ces normes et devient un ennemi. La raison pour laquelle la République islamique d'Iran est présentée comme la plus grande menace politique possible dans ce discours réside dans sa capacité à remettre en question politiquement, une vision du monde qui, bien que n'étant plus hégémonique, continue d'essayer par tous les moyens possibles d'inverser ce processus de décentrement. C'est la capacité de la République islamique à remettre en cause le discours, le non-respect des normes politiques de l'Occident qui fait du signifiant Iran une menace.